tu développes ton intuition, ça peut te sauver la vie si un jour il y a des circonstances difficiles.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Jade Allègre. Je suis très ravie de te rencontrer et d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec toi. Donc, merci de participer à ce projet. Aujourd'hui, Jade, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours. On va commencer par ta mission de vie parce que moi, dès que j'ai vu les premières vidéos sur toi, ça m'a vachement marquée. Et je me pose la question, comment on arrive à, je crois que c'est 38 ans, bien arriver dans l'âge adulte, à reprendre des études de médecine, quoi. Ça me semble une idée complètement folle. Mais on va peut-être rembobiner un petit peu. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton histoire de vie et ce que toi, tu interprètes comme ta mission de vie?
Bah, en fait, j'ai eu une enfance épouvantable, comme beaucoup de gens, pas physiquement, mais moralement, émotionnellement, affectivement. Et en fait, à 4 ans, j'ai quasiment réussi à mourir. Malheureusement, j'ai raté mon coup, tu vois, parce que apparemment, j'ai fait une NDE, tu sais, une near death experience, c'est-à-dire que j'étais dans le coma et à un moment donné, je me suis redressée avec le visage tout heureux, et j'ai dit « Ah, le petit Jésus qui vient me chercher !» Donc, j'avais réussi, j'étais en train de mourir. Malheureusement, il a dû me donner l'ordre de retourner au travail, donc je suis retournée au travail, et là, en fait, j'ai réussi à vivre parce que j'ai été, on peut dire, adoptée par les chiens de la famille. Les chiens de la famille, il n'y a rien de plus gentil au monde qu'un chien. Ils sont beaucoup plus gentils que les humains. Et donc, j'ai vécu dans une totale acceptation, tendresse, proximité, affection, etc. Et donc, si tu veux, je réfléchissais l'autre jour et je me suis souvenue qu'en fait, il y a deux moments qui étaient cruciaux dans ma vie où j'étais vraiment très en danger et qu'en fait, les deux moments, j'ai été sauvée par des chiens. Et donc, j'ai une dette. J'ai une dette à payer.
Envers les chiens.
Vis-à-vis de mes amis. Et j'ai trouvé le moyen récemment, puisqu'il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert la communication animale, cette technique qui permet d'échanger avec eux. Alors, les gens me disent tous, oui, mais moi, je parle avec mon chien. Je leur dis, c'est bien gentil, mais est-ce que vous l'entendez? Ah oui, je le comprends, etc. J'ai dit, d'accord, mais est-ce qu'il peut vous dire que son frère aîné n'était pas très sympathique, mais que son petit frère était charmant? Non, il peut pas. Donc, pour arriver à ce niveau de conversation avec un animal, il faut apprendre. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à redévelopper l'intuition qu'on avait quand on était petit et que notre éducation a réfréné. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque culture, il y a des potentiels de l'humain qui sont développés et d'autres qui sont freinés. Mm-hmm. Par exemple, chez nous, l'intuition est complètement écrasée. Si votre enfant vous dit « je sens que demain, ma grand-mère va téléphoner », vous allez sauter sur le gamin en disant « mais arrête avec ton imaginaire ». Vous voyez ? Donc, dans notre culture, l'intuition est une valeur qui est écrasée. Je connais une autre culture où toutes les valeurs de cœur sont écrasées. Vous voyez, chaque culture choisit les valeurs à développer ou les valeurs à écraser.
D'accord. Donc, la communication animale, ça passerait par l'intuition et ça serait quelque chose qu'on peut développer par une technique. C'est pas un don.
Alors, bon, il y a des techniques, mais les techniques ne sont que des supports. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est aller voir un maximum de communicateurs ou communicatrices compétents, apprenez un maximum de méthodes et à ce moment-là, vous choisissez celle qui correspond à vous, celle qui vous convient pour pouvoir écouter les animaux.
D'accord. Et donc, ça, tu proposes des stages pour transmettre
Oui. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé, si tu veux, parce que moi-même, bien sûr, quand j'ai découvert que c'était vrai, que ça marchait, que c'était vrai, j'ai été voir plusieurs communicateurs pour apprendre plusieurs méthodes. Mais en général, les gens n'arrivent pas bien à t'enseigner. Donc, ça veut dire que tu fais des stages indéfiniment et tu n'arrives toujours pas à le faire. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur comment développer l'intuition quand tu as écrasé depuis que tu es petit. Ouais. Et j'arrive, en fait, à ce que les gens réussissent en une seule journée. Là, okay. Par exemple, dimanche, il y avait une formation et ils ont tous cartonné comme des fous. Ils ont tous, vraiment, à la fin de la journée, ils savaient tous le faire. Donc, tu vois, et j'ai invité ma voisine qui est aveugle, qui est venue avec son chien d'aveugle. Et à la fin de la journée, elle travaillait en binôme avec une personne qui lui demande de poser quelques questions à son chien. Et donc, les questions qu'elle devait poser à ce chien, c'était entre autres, « Quel est ton meilleur ami ?» Et là, elle voit apparaître une image de lapin. Donc, elle se dit, ça, c'est pas possible. Le meilleur ami d'un chien, un lapin, on aura tout vu. Et en fait, c'était vrai. Le meilleur ami de ce chien était un lapin.
Waouh.
Donc, ça veut dire qu'au bout d'une journée, on peut recevoir des réponses intuitives totalement exactes à des questions dont on n'a pas la moindre idée de la réponse au départ.
D'accord. Ok, donc ça, c'est excellent. C'est un excellent outil pour développer l'intuition.
Oui, alors voilà, et tu as tout à fait raison de le dire, parce que, outre le fait que ça permet d'entendre enfin ce que les animaux ont à dire, l'avantage énorme, c'est que si tu développes ton intuition, ça peut te sauver la vie si un jour il y a des circonstances difficiles, parce que tu sauras qu'il faut aller vers la gauche et pas vers la droite, et qu'il faut aller vers telle personne et pas vers telle autre. Donc, ça peut te sauver la vie plus tard.
Donc, tu as écrit aussi un livre « Survivre en ville ».
Oui.
Est-ce que dans ce livre, tu parles… Alors, je l'ai acheté, je n'ai pas encore eu le temps de le lire parce que je ne l'ai pas reçu ici, mais est-ce que tu parles de l'intuition aussi en cas de…
Non, alors « Survivre en ville », c'est… Comme je te dis, moi, j'ai été entraînée aux techniques de survie dès que je suis née parce que ma famille, il fallait déjà aller survivre. Et donc, en fait, c'est une spécialité que j'ai développée aussi parce que je travaille dans l'humanitaire depuis que j'ai 16 ans. J'ai travaillé d'abord en France, mais après j'ai travaillé dans le monde entier et à chaque fois je vais dans les conditions les plus insalubres, c'est-à-dire que je vais là où l'eau est pas potable, là où la nourriture est pourrie, tu vois. Donc j'ai développé des techniques de survie réelles, concrètes et simples, parce qu'il y a des livres de survie, tu vois, ils font un kilo et en fait tu vas utiliser une page et encore. Moi c'est un tout petit bouquin, mais là tu as les trois choses les plus importantes, c'est-à-dire boire, manger et se soigner.
Ok.
Quand il n'y a rien, donc pour te donner. Et moi, c'est des choses que j'ai vraiment vécues moi-même, pour te dire qu'une fois, j'étais dans une jungle que je ne connaissais pas, avec un guide de cette jungle qui, au bout d'une demi-heure, nous a complètement perdus dans la jungle. Tu es perdu dans la jungle. Okay. Et donc, bah, tu vois, même dans une situation comme ça, moi, je sais que j'ai au moins 40 jours d'autonomie devant moi, donc je ne me fais pas de soucis. Parce que je vais pouvoir me débrouiller toute seule. Donc, même sans aller…
40 jours d'autonomie, c'est avec quoi ? Avec du jeûne, par exemple ?
Avec rien, tu vois. Donc, c'est ça que j'enseigne, c'est-à-dire comment être autonome sans rien, quoi. Parce que là, en plus, le guide était totalement imbécile puisqu'il n'avait même pas emmené de machette et que dans une jungle, ta survie, c'est la machette. Parce que la machette te permet d'avancer déjà dans la jungle qui sinon est trop intriquée, tu vois, et puis te permet de récolter des choses à manger, etc. Tandis que là, on n'avait rien. Si tu veux, sans aller jusque-là, je trouve que chacun devrait au moins savoir et enseigner à ses enfants comment se débrouiller quand il n'y a rien.
Ok. Donc, avec quels outils, par exemple ?
Ben, quels outils Eh bien, écoute, quels outils ? Qu'est-ce que je peux te dire comme outil ? Bah, déjà, savoir que… Est-ce que tu sais combien de temps on a d'autonomie sans manger ?
Moi, personnellement, j'ai expérimenté 5 jours, mais voilà. J'imagine que je pourrais tenir 28, peut-être 40 jours.
Oui, eh bien, en fait, l'autonomie, c'est 40 jours. C'est-à-dire que quelqu'un de normalement nourri comme nous, on peut aller sans manger rien du tout pendant 40 jours. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que tu vas être épuisé. Pour deux raisons, pas tellement parce que tu ne manges pas, mais surtout parce que sitôt qu'on mange plus, le corps se met en rythme nettoyage. Et pour nettoyer le corps, il enlève l'énergie sur les fonctions externes comme de marcher, comme de faire de l'exercice, etc. Donc tu vas te retrouver épuisé. Or quand on est en situation d'urgence, faut pas être épuisé, faut être au top de ses capacités.
D'accord.
Donc il y a des trucs pour ça.
Par exemple.
Il faut que tu payes d'abord. Hein.
J'ai acheté le livre, alors mince, je vais le lire demain. Mais...
Ah oui, mais c'est 10 euros, c'est pas suffisant.
Alors ça, c'est ce qu'on apprend dans tes stages sur l'argile.
Donc, j'ai fait ce livre « Survivre en ville », mais faut bien comprendre que comme c'est un livre qui est distribué au grand public, on est obligé d'être soft. Donc, quand j'enseigne directement, je suis beaucoup plus hard hein, sur comment on peut survivre. Bah, déjà, il y a une chose à savoir, c'est que déjà, on peut boire son urine.
Oui.
Donc, il y a plein de gens qui le savent pas. Et le problème de l'urine, si tu veux, c'est que ça peut compter que pour la moitié de ta boisson. Alors, il faut savoir aussi que si on sait comment faire, on peut boire l'eau de mer. Parce que, bon, voilà, donc il y a des choses à connaître, tu vois, des choses toutes simples comme ça qu'il faut connaître, quoi. Ouais. Il faut connaître le mode d'emploi. Par exemple, pour l'eau de mer, c'est le docteur Bombard qui avait fait des recherches là-dessus et qui a déterminé comment, de quelle manière on peut boire l'eau de mer sans se retrouver avec un problème. Parce que si tu veux, l'eau de mer est trop concentrée, donc il faut savoir comment l'utiliser. Tout ça, il faut l'apprendre. Il faudrait l'enseigner dans les écoles. Moi, mon rêve, ça serait d'enseigner la survie dans les écoles.
Okay.
Mais je m'en suis pas occupée. Peut-être qu'il faudrait que je me renseigne, peut-être qu'il y aurait des circuits, mais vraiment, ma gamine, par exemple, une des premières choses, moi j'ai une fille, une des premières choses que je lui ai enseignée, c'est à jeûner. Je l'ai enseignée à jeûner dès qu'elle avait, on va dire, 5-6 ans, vous voyez, dès qu'elle a eu l'âge de raison, pourrait-on dire.
Pour avoir des outils, du coup, de survie en cas de crise. Donc, on a l'urine, on a le jeûne, on a l'argile. Nous, on a testé l'argile, du coup, avec mes parents récemment.
Mais tu es encore en vie, on dirait.
Je suis encore en vie après 21 jours de boisson d'argile.
Oh, c'est bien.
Du coup, on est géophage, c'est ça qu'on dit ?
Oui, alors géophage, c'est un terme plus général. C'est-à-dire que ça veut dire la terre alors que l'argile n'est pas de la terre.
Ouais.
L'argile, c'est de la montagne, tu vois ? Donc, il faudrait dire montagnophage.
Montagnophage, ok. Géo, c'est la terre, parce que géo, ça, les couches géologiques, ça parle aussi des minéraux, non ?
Oui, mais non, géo, ça veut dire terre.
D'accord. Donc, on est montagnophage.
Voilà. Et alors, il y avait des ouvriers qui travaillaient dans des grottes qui en fait, qui beurraient leur pain avec l'argile et qui appelaient l'argile le beurre de montagne.
Mais moi, ça ne me dégoûterait pas. Je pense que j'apprécierais, oui.
Justement, à propos du thème de survie que tu évoquais, il y a des peuples qui, pendant certains mois de l'année, n'avaient pas à manger et du coup, ils mangeaient l'argile. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'argile ne nourrit pas parce qu'elle ne contient pas de sucre, de graisse et de protéines. Mais en revanche, elle te permet de vivre avec très, très peu de nourriture parce qu'elle potentialise l'utilisation des aliments. Donc, ce qui fait que ces peuples-là, tu vois, ils mangeaient 3/4 de kilo d'argile par jour quand même, hein, pendant plusieurs mois.
D'accord.
Mais il faut absolument y ajouter 3 feuilles de racines. Si tu prends que l'argile, tu vas mourir.
D'accord. Ok. Donc, on se posait la question, voilà, bon, ok, on a bu de l'argile tous les matins pendant 21 jours, mais bon, qu'est-ce que ça nous fait ? Est-ce que… Moi, personnellement, je n'ai pas vu un changement comme ça direct dans ma vie, si ce n'est que j'ai appris que bon, je peux consommer l'argile et que ça me va bien. Donc, en cas de crise, je me dis, bon, bah, ça y est, je l'ai déjà expérimenté. Donc,
c'est bien, mais c'est tout à fait ça. Il faut expérimenter avant la crise, il ne faut pas attendre la crise. Ouais.
Voilà, mais du coup, c'est ce que me disait mon père ce matin, c'est que ça manque un peu d'émotion, qu'on n'est ni content ni dégoûté de manger de l'argile. Quoi. C'est un peu plat comme…
Oui, parce qu'en fait, si tu veux, vous n'avez pas mis le focus sur le bon truc. En fait, il faut mettre le focus sur écouter le corps. C'est-à-dire que, par exemple, 21 jours, ça veut rien dire. C'est une durée qui a été mise par Monsieur Raymond Dextrait du livre « L'argile qui guérit ». Et Dextrait ne connaissait pas l'usage en termes. Donc, il a dit 21 parce qu'en fait, c'est le temps pour un effet placebo. 21, c'est 3 fois 7, c'est un peu magique et tout. Donc, ça veut rien dire. En fait, si tu veux, il faut écouter chaque jour si ton corps a envie de continuer ou pas. Et si ton corps a envie de continuer, peut-être que ça sera 4 mois et pas 21 jours.
D'accord.
Tu vois, donc c'est très très important d'écouter le cœur. Et à l'inverse, une femme enceinte, par exemple, si elle goûte l'argile, peut avoir envie d'en prendre 5-6 fois dans la journée. Et là, elle doit écouter aussi.
D'accord.
Il faut vraiment redevenir animal. Tu vois, par exemple, si mon chien a l'air un peu patraque, je lui mets quelques pierres d'argile concassées sur le sol, et c'est elle qui décide premièrement si elle doit en manger et deuxièmement combien elle doit en manger. Donc, il faut redevenir comme les chiens.
Ok. Donc, redevenir intuitif ou instinctif ? Est-ce que tu fais la différence entre l'instinct animal et l'intuition ?
On va dire que l'intuition, c'est l'instinct émotionnel, c'est l'instinct affectif, hein, c'est un peu le même ordre.
D'accord. Moi, je t'identifie beaucoup avec ce message de l'argile. Donc, tu as aussi le message de la communication animale. Qu'est-ce que tu considères être ta ou tes missions de vie ?
Eh bien, justement, moi, je pense que j'ai à rendre aux animaux ce qu'ils m'ont donné. Tu vois, et donc, voilà, donc faire progresser la relation des gens avec les animaux pour qu'ils soient un peu moins malheureux, qu'ils souffrent un peu moins.
Les animaux ?
Oui.
D'accord. Est-ce que ça va dans le végétarisme, véganisme et...
Bien sûr. Le véganisme, c'est le même état d'esprit. C'est vouloir sortir de la souffrance des animaux. Parce que si tu veux, le problème quand tu manges un morceau de viande, c'est que tu manges un morceau d'un animal qui a été torturé. Ils sont torturés, on leur enlève les petits, on les ferme dans des trucs impossibles, on les laisse jamais sortir dehors. Une fois au Québec, j'ai été invitée à visiter l'élevage d'une fille qui disait que ses vaches, c'était ses enfants. Eh bien, ses enfants, ils étaient attachés 11 mois de l'année avec une barre de métal d'un mètre et ils avaient peur des humains. Donc, j'aurais pas voulu être un de ses enfants.
Oui.
L'inconscience des gens, mais elle est hallucinante, quoi. Hallucinante.
Ouais.
Cette fille les appelait ses enfants. Comment on peut en arriver là?
L'espèce humaine évolue petit à petit. Donc ça ferait partie d'une évolution souhaitable prochainement, quoi.
Là, ça sera une révolution qu'il faudra.
Quel est ton métier, Jade?
Je suis médecin. Je suis médecin, mais je n'utilise que les médecines naturelles. Comme je disais, je suis désolée, mais moi, je ne suis pas Marie de Médicis. Je ne donne pas de poison.
D'accord.
Et si tu veux, quand tu connais bien la médecine naturelle, quel que soit le problème de santé, tu peux avoir des résultats immédiats et puissants.
Donc, qu'est-ce que tu recommandes comme médecine naturelle? Quels sont les...
La première chose dont les gens ne se rendent pas compte, si tu veux, c'est que il y a différents types de corps. Même si c'est tous des bipèdes, humanoïdes, il y a différents types de corps et qui fonctionnent pas avec les mêmes choses. Par exemple, il y a des corps qui sont faits pour le sel. Donc, par exemple, le traitement par l'eau de mer, le plasma de Quinton, conviendra très bien à ces gens, mais il conviendra pas du tout aux gens qui, eux, sont plutôt, faits pour le sucre, on va dire, si on schématise. Mais pour te dire que déjà Hippocrate, je crois que c'était le 4e siècle avant Jésus-Christ, je crois, mais tu vérifieras. Donc, Hippocrate, déjà, s'était rendu compte qu'il y avait différents types de corps et il avait établi un classement. Ce que je veux dire par là,
c'est les tempéraments, c'est ça.
Voilà, les tempéraments d'Hippocrate. Donc, Hahnemann de l'homéopathie, il a classé aussi les tempéraments. Moi, j'utilise les classifications du docteur Jacques Ménétrier, qui est le gars qui a mis au point les médecines des oligo-éléments. D'accord. Mais donc, la première chose en santé, c'est de savoir quel type de corps on a. Pour te prendre un exemple.
En médecine ayurvédique aussi, on a le kapha, kapha-vata.
Exactement. Et donc, il faut trouver la classification qui te parle, où tu te reconnaisses, tu vois. Et après, savoir qu'est-ce qui est bon ou pas pour ce type de corps. Par exemple, dans mon type de corps, l'exercice physique n'est pas vraiment indispensable. Alors qu'il y a d'autres types de corps où s'ils font pas d'exercice, vraiment, ils ont tout faux, quoi. Tu vois.
Et donc, il y en a combien des tempéraments dans la classification que tu utilises?
Dans la classification de Ménétrier, je crois qu'il y en a 6 ou 7, mais moi, j'ai simplifié, en fait, si tu veux, parce que il y en a 2 de base. En gros, on pourrait dire un yin et un yang quelque part, D'accord. Tu vois. Donc, il y en a 2 de base, puis après ça, il y a une diathèse qui représente le vieillissement. Puis après, il y a une diathèse d'effondrement. Puis après, il y a une diathèse de modulation glandulaire, endocrinienne. Il y a plusieurs trucs. Mais le tout, c'est de trouver une classification qui vous parle.
D'accord.
Il faut en avoir une. Parce que, tu vois, mettons, tu écoutes quelqu'un sur YouTube qui est fabuleux et qui guérit tout, tu appliques son truc et puis voilà, c'est une catastrophe pour toi. Pourquoi? Parce que tu as le corps opposé.
Oui, bien sûr.
Donc, il faut connaître son type de corps. Très important.
Il y a aussi les histoires d'alimentation avec le groupe sanguin.
Voilà, il y en a plein. Le groupe sanguin, ça a eu beaucoup de succès. Moi, je suis pas du tout convaincue, mais en tout cas, ça a eu un gros succès commercial. Mais donc, moi, je serais plutôt pour prendre des classifications qui ont fait leur preuve, tu vois, comme celle de la médecine ayurvédique, celle d'Hippocrate, etc.
Des trucs qui durent quelques milliers d'années, quoi.
Voilà. Okay. Et un peu plus de recul, parce que bon, par exemple, en classification groupe sanguin, ils disent que le groupe A, dont je fais partie, on est fait pour les légumes, et moi, je suis désolée, c'est exactement ce qui me tue, moi, les légumes, tu vois, c'est vraiment pas du tout fait pour moi.
D'accord.
Donc, de ce que j'ai pu vérifier, c'est plus un succès commercial qu'une réalité.
Alors que moi, je crois que c'est le groupe O, il y a une histoire d'épinards et de lentilles, et en effet, j'ai une passion pour ces aliments-là, mais bon.
Ah, tu vois, bon, en fait, ce qu'il faut, c'est voir par rapport à soi-même, voir avec quoi tu raisonnes. Ouais. Tu raisonnes, pas raisonner le raisonnement, hein, mais raisonne avec quoi tu es en harmonie.
Ouais, dans le cœur, on entre en résonance, voilà. D'accord. Est-ce que tu utilises aussi la médecine chinoise?
Non, il n'y a pas besoin. Hein. Nous, on a des très bonnes médecines européennes. On n'a pas besoin d'aller les chercher en Chine.
Ok, ça fait plaisir à entendre parce qu'on entend souvent une apologie de tout ça.
Ah bah oui, comme la médecine hindoue, l'Ayurveda et tout. Alors que bon, nous, on a des très bonnes médecines traditionnelles aussi. Hein. Mais ceci dit, moi, je prends partout. Hein. Je veux dire, s'il y a un truc intéressant en Inde, je le prends. S'il y a un truc intéressant chez les Lapons, je le prends. Moi, je prends tout ce qui marche. En fait, moi, mon critère, c'est qu'est-ce qui marche.
Ok.
Tu vois, c'est-à-dire que, si tu veux, ma devise, pour le moment, c'est une parole de Voltaire qui disait « Le vrai n'est pas toujours vraisemblable ». C'est-à-dire qu'on peut avoir un truc qui soit très séduisant et qui soit faux, et un truc qui paraît complètement absurde et qui est vrai.
Mm.
Donc, pour moi, c'est toujours essayer. Avoir l'humilité d'obéir aux faits et pas au raisonnement.
D'accord.
Et justement, à ce propos, moi maintenant, quand j'entends raisonner R-A-I-S-O-2-N-E-R, j'entends raisonner R-E-S-O-2-N-E-R. Tu vois, c'est comme pour l'argile. 21 jours, c'est stupide. C'est pas de ta faute. C'est parce que, je te dis, d'extrait, il a fait un travail extraordinaire sur l'externe. Il pouvait pas se permettre l'interne parce que déjà, avec l'externe, il avait eu 7 procès. Donc, t'imagines, s'il osait parler de l'interne, qui est la chasse gardée directe des médecins, là, il était mort, là.
Est-ce qu'on peut expliquer un peu tous ces procès, pourquoi
Non, c'est simplement que ça indisposait parce que c'était pas dans le cursus officiel. Et à chaque fois, il a gagné. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a été prouvé qu'en fait, les gens étaient tombés malades parce qu'ils prenaient un autre truc en plus de l'argile. Et c'était l'autre médicament qui les avait rendus malades et pas l'argile.
D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-indications avec l'argile ?
Contre-indication, non, il y a aucune contre-indication. Il y a des précautions d'emploi. Par exemple, si tu prends un traitement pour casser ton immunité. Mettons, tu viens d'avoir une greffe et on te donne un traitement pour casser ton immunité. C'est pas le moment de prendre l'argile parce que l'argile, au contraire, elle va réveiller ton immunité. Mmh. Tu vois, il y a des précautions d'emploi de bon sens, tu vois.
Avec le lévothyrox?
Alors, le lévothyrox, là, il faudrait carrément faire une autre interview parce que c'est une question qu'il faudrait traiter très, très longuement.
D'accord.
Ce que je voudrais juste te dire, c'est qu'il y a plein de gens qui en prennent et qui n'en ont pas besoin et qui, grâce au fait qu'ils en prennent, mettent leur thyroïde en repos et risquent de mourir le jour où il y a une pénurie.
Hmm. Donc, tu recommanderais de trouver des solutions pour réentraîner la thyroïde ?
Voilà, il faut trouver d'autres solutions.
D'accord. Et avec l'hypertension, il n'y avait pas une…
Non, alors ça, c'est une erreur de Dextrait. Et d'ailleurs, il l'avait reconnu quand il était vivant. J'étais allée le rencontrer et il avait reconnu que non, que c'était faux, qu'il avait mis ça comme ça justement parce qu'il avait eu tellement de procès qu'il essayait de prendre le maximum de protection pour ne pas être embêté. Alors qu'au contraire, moi, j'ai des patients qui avaient de l'hypertension et qui n'en ont plus grâce à l'argile.
D'accord. Donc là aussi, du coup, ce qu'on peut recommander, c'est d'écouter son corps.
Parce qu'il faut, voilà, il faut écouter son corps et il faut pas suivre d'extrait pour tout ce qui est interne.
D'accord. Mais pour les usages externes, de cataplasme, etc.
Il est super.
Ok, super.
Moi, je collabore avec sa fille qui s'appelle Micheline Dextrait, qui est une femme remarquable. Remarquable et donc qui en plus j'ai fait une vidéo YouTube sur son travail, hein, Micheline Dextrait, et donc et elle répond très gentiment au téléphone pour les cas compliqués et elle conseille très bien pour l'usage externe.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'homéopathie? J'ai l'impression qu'en France en ce moment c'est un sujet.
L'homéopathie c'est remarquable, mais comme ça ne fait pas partie de l'establishment, ils sont en train de la casser. Mais je ne sais pas si tu as entendu dire, ils sont également en train d'aller vers l'interdiction des huiles essentielles.
Ah, ça, je ne savais pas, d'accord.
Ah, si, malheureusement. Alors, ils ont déjà réussi à les interdire pour les animaux.
Les huiles essentielles sont interdites?
Oui, elles sont interdites pour les animaux d'élevage, déjà.
D'accord.
Donc, ça arrive.
Ok. À ton avis, ça va dans quel sens, tout ça?
Dans le sens qu'il faut favoriser la chimie.
D'accord, j'ai vu qu'ils voulaient enlever aussi les cursus d'homéopathie des universités.
Ça va dans la même logique. C'est très logique, tu sais, c'est la logique de l'argent, c'est tout. C'est une logique implacable.
Qu'est-ce qu'on peut y faire ?
Déjà, aux États-Unis, si tu veux, il faut que tu te procures un livre qui est remarquable, qui s'appelle « Le jeûne, une nouvelle thérapeutique ? » Point d'interrogation. Si tu veux, c'est un livre qui a été fait par le journaliste qui avait fait cette émission magnifique sur Arte, sur le jeûne. Mm-hmm. J'espère que tu l'as vu, il faut absolument la voir. Eh bien, il faut acheter son livre et là, tu liras le premier chapitre et tu m'en diras des nouvelles.
D'accord.
Il explique comment les pouvoirs d'argent ont réussi à interdire les médecines naturelles aux États-Unis. Okay. Donc, comme nous, on fait toujours ce qu'on fait les États-Unis avec 10 ans ou 15 ans de décalage, c'est en train d'arriver.
Bon, mais a priori, le gène et l'argile, ça va être compliqué de nous les enlever, quoi.
Ben, l'argile, si. D'ailleurs, le principal producteur d'argile en France a été racheté par Total.
Bon.
Donc, c'est en cours. Il y a des carrières où les gens allaient s'approvisionner aux Antilles et qui maintenant sont interdites.
Ok. Du coup, toi qui a côtoyé un peu ce monde de la médecine, puisque tu as fait des études de médecin.
En tout cas, si tu veux, il faut bien différencier médecine et chirurgie. La chirurgie est indispensable. Mm-hmm. La médecine chimique peut être remplacée avantageusement. Mais la chirurgie, c'est un autre domaine. Il y a des moments où il faut découper. Recoudre et recoller, quoi. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
On a parlé ensemble des gentilles bactéries.
Oui, alors moi je suis pour le mouvement de défense des bactéries.
Tu peux nous en dire un peu plus ? Comment ça se matérialise dans ton quotidien ?
C'est très simple. Les bactéries, on en a 10 milliards partout à tout moment. Et en fait, notre seule sécurité par rapport à ne pas être envahi par une bactérie pathogène, notre seule sécurité, c'est d'avoir beaucoup de bactéries parce qu'il y a une compétition pour la nourriture. Et ça, je l'ai su grâce à une voisine. Un jour, j'habitais en Belgique et j'avais une voisine qui était biologiste. Et un jour, elle me dit, est-ce que tu sais qu'il y a très peu de bactéries dangereuses? Alors, j'ai dit, je pensais qu'il y en avait plein. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, ce qui rend une bactérie dangereuse, c'est le fait qu'il n'y a pas assez d'autres bactéries à côté. Donc, elle se développe trop. La plupart du temps, c'est simplement le fait qu'elle devient trop nombreuse par rapport à d'autres espèces. Donc, le meilleur moyen de lutte contre les bactéries, c'est d'en avoir un maximum. Comme ça, il n'y a pas de la nourriture pour tout le monde.
Ok, donc comment on peut faire, par exemple, pour développer les bactéries ?
Il y a simplement besoin de ne pas les dégommer, quoi. Il faut les laisser tranquilles. Par exemple, moi, mon enfant, je l'ai emmenée dans tous les pays du monde en conditions insalubres et elle n'a jamais été en danger parce que si elle laisse tomber son morceau de pain par terre, je lui dis « tu le ramasses, tu le manges ». Donc, elle a toujours eu le corps occupé par les bonnes bactéries. Et du coup, il paraît qu'autrefois en France, il y a des parents qui frottaient le pain sur le mur avant de le donner à l'enfant. Et c'était très intelligent parce que du coup, ils récupéraient les bactéries locales et ils les donnaient bien à leur enfant. Et du coup, l'enfant ne risquait pas d'avoir une surpopulation d'une espèce bactérienne. Donc, en fait, si vous voulez vous mettre en danger, il faut tout aseptiser. Il faut faire un pchit sur votre verre quand vous allez au restaurant. Là, vous êtes sûr d'attraper quelque chose.
Okay. Et donc, l'argile, ça ne va pas à l'encontre des antibactéries qu'on a dans notre...
Non, c'est-à-dire l'argile, si tu veux, la plupart du temps, la plupart des argiles ne tuent pas les bactéries. Et c'est justement ça qui est intéressant. Parce que quand tu tues les bactéries, par exemple, mettons, tu donnes un antibio très spécifique de telle bactérie. Donc, l'antibio, il va être en dégommé 98%, d'accord ? Ce qui est intéressant, c'est savoir qui est-ce qui va se reproduire à la génération d'après. Ben, c'est les 2% qui étaient résistants à l'antibiotique et qui ne sont pas morts. Donc, ça veut dire qu'à la génération d'après, tu n'auras que des bactéries résistantes. Tu comprends ?
Ouais.
C'est-à-dire que quand tu tues, tu sélectionnes les résistants. D'accord. Et là, c'est là que tu te mets en danger. Mais l'argile, elle, si tu veux, elle va... Tu sais, les bactéries, c'est un domaine absolument passionnant. Moi, si j'avais eu le temps, j'aurais fait des études de recherche sur la bactério et la viro. C'est le domaine... J'ai commencé médecine à 38 ans et en fait, je les ai tous défoncés. Hein, je veux dire, au premier trimestre, j'étais 6e sur 550. Donc, si tu veux, il suffit d'avoir un peu de rigueur et c'est très facile de faire médecine. Et entre autres, les bactéries, elles échangent de l'information entre elles. Mettons que je suis une bactérie qui résiste à l'antibiotique oréomycine. Oui. Et ma voisine est une bactérie qui n'a pas la résistance à l'oréomycine. Ce qui est intéressant, c'est que je fabrique un tube entre moi et la bactérie numéro 2 et à travers le tube, je lui passe le petit morceau d'ADN qui donne l'information sur comment résister à l'oréomycine. Okay. Donc, il n'y a même pas besoin d'attendre une génération, qui d'ailleurs ne prend que 20 minutes, hein, une génération de bactéries. Les bactéries se transmettent l'information. Et donc, un des modes d'action de l'argile, c'est que, vous savez, autrefois, quand on voulait nettoyer le sol du bistrot, on mettait du sable. Et après ça, on balayait et le sable emmenait toutes les petites particules de saleté. Eh bien, c'est la même chose avec l'argile. C'est-à-dire qu'un des modes d'action de l'argile avec les bactéries, c'est qu'elle les englue complètement. Et donc, elles ne peuvent plus discuter entre elles, elles ne peuvent plus se reproduire, elles ont des tas, si vous voulez. Et après ça, l'argile les embarque et les remet dans le milieu extérieur.
D'accord.
Mais ce n'est pas intéressant. Il existe des argiles qui tuent les bactéries, mais ce n'est pas intéressant de prendre ces argiles-là.
D'accord.
Il vaut mieux pas les tuer. Il vaut mieux les remettre dans leur milieu et c'est tout.
Ok. Donc, c'était un peu… Enfin, ça me fait penser aux racines des arbres, là, cette communication entre les bactéries, comme les arbres qui communiquent à travers les racines et à travers notamment bah, des bactéries, finalement, et des…
Ouais. Ah non, mais les bactéries, c'est passionnant. Les virus aussi, hein, c'est tout à fait fascinant. Hein. Mmh. Les virus, c'est des… Vous savez, il y avait les premières cellules spatiales russes qui étaient des LEM. Je ne sais plus quel est le détail de LEM, L-E-M. Et qui atterrissaient et qui s'accrochaient avec leurs pattes. Les virus, c'est comme ça. Ils s'accrochent et puis après, ils transmettent leur ADN. D'accord. Nous, on est des animaux pas très perfectionnés à côté de ça.
Ouais.
Les bactéries sont nos amis. Voilà, prenons ça comme mot de la fin.
Les bactéries sont nos amis. Est-ce que tu aurais un message pour les femmes qui cherchent… Alors, parce que moi, j'ai beaucoup de femmes qui regardent ces interviews. Qui ont peut-être trouvé leur mission de vie, mais qui osent pas se lancer sur un projet un peu fou comme reprendre des études de médecine, partir.
Tu leur dis qu'on n'a qu'une vie, que la vie passe très vite et qu'elles n'ont pas de temps à perdre. Il faut pas regarder ce qu'il y a autour. Moi, c'est assez. J'ai été bien dressée dans ma famille parce que j'étais toute seule, donc j'ai appris à me débrouiller toute seule. Peut-être que finalement, le piège, c'est qu'elles ont été trop entourées. Donc, pensez que vous êtes toute seule, pensez que vous n'avez qu'une vie, qu'il y en a peut-être d'autres, mais que vous n'en serez jamais sûre et que donc, c'est maintenant ou jamais.
Ok, on y va.
On est parti.
C'est l'énergie feu de Jade, j'adore. génial, ben, merci beaucoup Jade pour cette interview, cette pêche d'enfer. Si c'est de manger de l'argile qui donne cette énergie-là, je vais continuer. Merci beaucoup.
Écoute ton corps. Tu verras, il sait tout. Et c'est pareil, chaque fois qu'on me demande de soigner un petit enfant, chaque fois qu'on me demande de soigner un animal, moi je dis aux gens, votre rôle n'est pas de leur donner le remède. Il ne faut surtout pas le cacher dans la nourriture pour le faire passer. Il faut le donner tout seul, un remède pas dénaturé que vous donnez tout seul, parce que l'enfant c'est beaucoup plus que vous, l'animal c'est beaucoup plus que vous. Donc votre rôle c'est seulement de proposer. C'est d'avoir les bonnes idées. Ah, est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'un peu de levure de bière, par exemple? Vous voyez, par exemple, moi, mon enfant a pris pour la première fois de l'argile à boire. À votre avis, à quel âge?
J'imagine en étant allaité.
C'est un piège. À quel âge? Non, à 3 jours.
3 jours?
Voilà. Mais seulement, moi, je lui ai proposé et j'ai vu comment elle réagissait.
D'accord.
Parce que vous savez, à 3 jours, les enfants nouveau-nés ont des crampes intestinale épouvantable qu'on appelle les colites du nouveau-né dont on ne connaît pas la raison et encore moins le traitement. Et donc, quand j'ai vu qu'elle se tordait, je lui ai proposé de l'argile à boire et alors elle m'a bu ça comme si c'était le bon Dieu. Donc, j'ai accepté. Il faut être humble.
Génial.
Les animaux et les petits-enfants sont nos maîtres.
Ok. Et donc, on peut apprendre d'eux et voilà. Développer notre intuition aussi qui peut nous servir du coup.
Tout à fait.
Super. Bon, okay. Merci.
Merci.
C'était un plaisir de faire cette interview avec toi.
Merci beaucoup.